en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Chikungunya, paludisme, tuberculose, depuis les années 70, on note un retour des maladies infectieuses. Les micro-organismes résistent de plus en plus au traitement, les vecteurs se jouent des insecticides et de plus en plus fréquemment émergent des maladies que nous ne connaissions pas jusqu'alors. Des microbes et des hommes, c'est le titre de la communication de Maxime Schwartz que nous vous proposons d'écouter dans quelques instants. Maxime Schwartz est biologiste moléculaire, directeur général honoraire de l'Institut Pasteur et correspondant de l'Académie des sciences. Cette communication avait lieu à l'Institut de France en octobre 2008, dans le cadre des défis du XXIe siècle.
Des microbes et des hommes. Lorsque, en 1878, Cédillo a proposé, avec l'accord de Littré, l'usage du mot microbe, il voulait désigner ces êtres vivants si petits qu'on ne pouvait les voir qu'avec un microscope. Mais par la suite, grâce aux travaux de Koch en Allemagne et de Pasteur en France, on a compris que certains de ces microbes, une infime partie d'entre eux, étaient la cause de maladies. Alors, comme ces microbes pathogènes étaient vraiment les seuls qui attiraient l'attention du grand public, l'habitude a été prise d'utiliser le mot microbe pour désigner spécifiquement ces microbes pathogènes. Et aujourd'hui, on a tendance à inclure dans ces microbes les virus, bien que ce ne soit pas à proprement parler des êtres vivants, parce qu'ils causent de fait des maladies souvent très semblables à celles causées par les bactéries. Et c'est donc dans ce sens grand public que nous allons utiliser le mot microbe. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on parvint à identifier les microbes responsables de la plupart des maladies infectieuses et à élucider leur mode de transmission, un arthropode jouant parfois le rôle de vecteur obligatoire. Dès lors, une guerre sans merci a été engagée contre ces microbes par le développement de l'hygiène, la lutte contre les vecteurs de microbes, le développement, la mise au point de vaccins et la découverte, puis l'utilisation à grande échelle des antibiotiques et anti-infectieux. Les succès ont été spectaculaires, du moins dans les pays développés. Des maladies très meurtrières comme la peste, le choléra, la diphtérie, la tuberculose, la syphilis, la poliomyélite, le paludisme et bien d'autres, sans disparaître totalement, ont cessé de faire des ravages dans ces pays. Une maladie particulièrement répandue et meurtrière, la variole, fut même éradiquée de la surface du globe en 1977. Beaucoup pensèrent alors que les maladies infectieuses avaient été définitivement vaincues. Eh bien, ce fut une grave erreur. En effet, dès la fin des années 1970, bonjour Monsieur le Président, les maladies infectieuses recommencèrent à faire parler d'elles. Ainsi, durant la seule année 1976, trois maladies infectieuses, inconnues auparavant, furent la cause de petites épidémies. La légionellose, qui tire son nom des premières victimes connues de cette maladie, qui étaient des membres de l'American Legion réunis en congrès à Philadelphie. La maladie de Lyme, du nom d'un petit village du Connecticut où elle fut identifiée. Et la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont le nom vient de celui d'une petite rivière proche d'un village du Zaïre où eut lieu la première épidémie identifiée. Dans ces trois cas, les microbes responsables n'étaient pas nouveaux, même s'ils n'avaient pas été identifiés auparavant. Ils préexistaient chacun dans son habitat particulier. Legionella pneumophila, la bactérie responsable de la légionellose, est une bactérie commune de l'environnement et qui est présente dans les cours d'eau. Borrelia burgdorferi, cause de la maladie de Lyme, est présente chez plusieurs mammifères. Elle parasite plusieurs mammifères, notamment les cervidés, et est transmise par les tiques. Quant au virus Ebola, il semble que son réservoir naturel soit une chauve-souris. Si ces microbes se sont mis à causer des épidémies, eh bien c'est à cause de l'action de l'homme et des changements dans ses modes de vie. c'est le développement de l'air conditionné qui a fourni à Legionella un nouvel habitat à partir duquel elle a pu être disséminée dans l'atmosphère et infecter les poumons humains. C'est l'évolution de l'habitat en Nouvelle-Angleterre qui, en rapprochant les hommes des populations non contrôlées de cervidés, y a causé le développement de la maladie de Lyme. Enfin, c'est l'installation de dispensaires et hôpitaux insuffisamment équipés dans la brousse africaine qui a causé les épidémies de fièvre Ebola, l'accueil d'un patient atteint par cette maladie provoquant aussitôt la contagion parmi les autres patients et le personnel soignant. Depuis 1976, ces maladies ont continué de sévir partout où les conditions nécessaires à leur diffusion étaient réunies. Donc, comme le montrent ces trois exemples, c'est avant tout l'homme lui-même qui est à l'origine de l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. De nombreux autres exemples pourraient être donnés, mais attardons-nous quelques minutes sur le cas emblématique du sida. L'émergence du sida date, on s'en souvient, du début des années 1980, et cette maladie est devenue aujourd'hui la plus meurtrière des maladies infectieuses, avec environ 3 millions de morts chaque année. Le scénario le plus vraisemblable pour son émergence fut le suivant. Les virus VIH sont des virus de singes. VIH1 étant très semblable au virus SIV du chimpanzé et VIH2 au virus SIV du singe mangabais, une espèce d'arbre généalogique, plus les branches sont proches, plus les virus sont semblables du point de vue de la séquence de leurs acides nucléiques. Et vous pouvez voir que plusieurs souches d'HIV1, en rouge en haut, sont en fait situées au milieu de branches où l'on trouve le SIV. Le SIV, c'est l'équivalent du HIV du chimpanzé et celui du gorille. Donc en fait, les HIV1 sont indistinguables de virus SIV du chimpanzé. Quant au HIV2, il appartient à la branche des SIV de ce SIV du mangabais. Donc, ce sont des virus de singes. De multiples possibilités de transmission de ces virus à l'homme résultent du fait que les habitants des petits villages d'Afrique centrale ont l'habitude de manger du singe, cette fameuse viande de brousse, et que la contamination peut se faire lors du découpage des animaux. Eh bien, lorsqu'on découpe ces animaux, vous voyez que les gens s'en mettent plein les mains et qu'il suffit qu'ils aient quelques petites coupures pour pouvoir être contaminés. Donc on a certainement eu depuis longtemps, et on continue probablement d'avoir, une contamination de l'homme par ces virus du singe, par ce type de voie. Alors, lorsqu'un homme de ces petits villages est contaminé, il n'a en fait que peu de possibilités de transmettre son virus, car les conditions sociales qui prévalent dans ces villages n'y sont pas propices. Ainsi, on a constaté rétrospectivement la présence, dès 1976, d'environ 1% de séropositifs dans un petit village donc du Zaïre, et ce nombre est resté stable pendant au moins 10 ans. Mais malheureusement, du fait de l'exode rural, quelques personnes infectées ont pu quitter ces communautés rurales pour rejoindre des mégapoles telles que Kinshasa, où sévissent la prostitution et la toxicomanie. Le virus eut alors tout loisir de se répandre dans la ville, puis du fait des transports internationaux et du tourisme dans le monde entier. Dans les pays développés, particulièrement aux États-Unis, le relâchement des mœurs, notamment au sein des communautés homosexuelles, a donné un nouveau coup d'accélérateur à la pandémie. Donc on voit que là encore, ce sont les changements dans les modes de vie des communautés humaines qui ont provoqué l'émergence de cette maladie au niveau mondial, alors qu'elle existait vraisemblablement à bas bruit dans de petites communautés africaines. Outre l'action de l'homme, un autre facteur peut intervenir dans l'émergence ou la réémergence des maladies infectieuses. Il s'agit de la redoutable capacité d'adaptation des microbes. Le cas d'adaptation le plus connu est celui de l'acquisition par les bactéries de la résistance aux antibiotiques. Alors, un antibiotique, je vous le rappelle, c'est une substance qui bloque une réaction chimique qui est essentielle au développement d'un microbe, une réaction qui n'a pas exactement son équivalent, évidemment, chez l'hôte. Donc le plus souvent, l'antibiotique agit en empêchant le fonctionnement normal d'un enzyme indispensable à ces réactions. Eh bien, des mécanismes de résistance très variés ont été mis à jour chez diverses bactéries, ayant tous pour effet d'empêcher l'interaction de l'antibiotique avec sa cible. Vous voyez ici, il y a pu y avoir par mutation, modification de l'enzyme cible, de telle sorte qu'il ne reconnaît plus l'antibiotique. Il peut y avoir mise en route par la bactérie de l'expression d'une autre enzyme qui n'est pas sensible aux antibiotiques et qui va pouvoir court-circuiter l'enzyme sensible. Il peut y avoir altération de la perméabilité membranaire, de telle sorte que l'antibiotique ne peut plus pénétrer. Il peut y avoir production d'enzymes détruisant ou modifiant l'antibiotique. Et c'est en fait la méthode processus de résistance qui est connu depuis le plus longtemps. Dès qu'on a découvert la pénicilline, on a constaté que certaines bactéries produisaient une pénicillinase capable de détruire la pénicilline. Et puis le dernier processus de résistance, et peut-être le plus inquiétant, c'est celui des pompes à efflux. Il semble donc, on sait maintenant, que certaines bactéries peuvent mettre en route des pompes qui font ressortir l'antibiotique de la bactérie dès qu'il est entré. Et ce qui est grave, c'est qu'alors que certaines pompes à efflux sont très spécifiques d'un antibiotique déterminé, il y en a qui ont une spécificité en fait très large et qui peuvent faire ressortir de la bactérie un grand nombre de composés divers. De telle sorte qu'on peut se trouver aujourd'hui dans une situation où on met au point un nouvel antibiotique et on découvre que les bactéries ont déjà découvert le mécanisme de résistance car elles peuvent mettre cet antibiotique dehors immédiatement. Donc il se trouve que du fait de l'usage intensif des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire, un usage qui était parfois inapproprié, eh bien, ces résistances aux antibiotiques se sont beaucoup répandues dans les populations de bactéries pathogènes. Et il en résulte que certaines maladies bactériennes, qui étaient très aisément combattues auparavant, deviennent difficiles, très difficiles, voire impossibles à combattre, à soigner dans certains cas. Je vous cite par exemple le cas de la tuberculose, dont il ne faut pas oublier qu'elle vient immédiatement après le sida au palmarès des maladies les plus meurtrières, avec près de 2 millions de morts chaque année, essentiellement dans les pays pauvres. Eh bien, selon les dernières statistiques, à peu près 5% des nouveaux cas, il y a 10 millions de nouveaux cas de tuberculose par an et 2 millions de morts, mais 10 millions de nouveaux cas, eh bien, on estime qu'à peu près 5%, c'est-à-dire 400 à 500 000 personnes, sont infectées par des bactéries de la tuberculose qui sont multirésistantes aux antibiotiques. Et dans ces cas-là, on peut se trouver dans une situation où on ne peut plus soigner la tuberculose et on se retrouve dans la situation où on était avant l'invention des antibiotiques. Alors un autre cas d'adaptation qui est bien connu, c'est celui du virus de la grippe. Avec son enveloppe et à l'extérieur, vous avez ces molécules qu'on appelle HEN, qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Ces molécules sont celles qui permettent au virus d'aller reconnaître les cellules, d'aller se coller dessus, de pénétrer à l'intérieur et de s'y développer. Mais ce sont aussi les molécules qui sont reconnues par le système immunitaire, donc qui fabriquent des anticorps, lesquels vont aller se coller sur ces protéines de surface et empêcher le virus d'agir. Eh bien, en fait, ce virus a une grande capacité de mutation, de telle sorte qu'il mute et que progressivement, les molécules HEN se modifient, de telle sorte que le virus devient progressivement capable d'infecter des gens même qui ont les anticorps, puisque comme les molécules HEN ont varié, les anticorps ne les reconnaissent plus. C'est pour ça qu'on assiste à ce qu'on appelle un glissement antigénique du virus de la grippe. Le virus de la grippe change un petit peu, en gros, chaque année, et c'est la raison pour laquelle il faut d'ailleurs se faire revacciner chaque année quand on est dans une situation où le vaccin est recommandé. Donc c'est la première capacité d'adaptation, une adaptation progressive au système immunitaire qui permet au virus d'infecter aussi bien des gens qui ont déjà eu la grippe avec ce virus que des gens qui ont été vaccinés. Mais en outre à cette évolution progressive du virus, s'ajoutent de temps en temps des changements brutaux aux conséquences catastrophiques. Et tout le monde se souvient de la terrible grippe dite espagnole de 1918-1919 qui a causé entre 20 et 50 millions de morts à l'époque. Deux autres épidémies d'un peu moins grande ampleur ont eu lieu en 1957 et 1968. Eh bien, ces épidémies périodiques résultent de l'infection de l'homme par des virus de la grippe qui possèdent des molécules H et N provenant de virus d'oiseaux, de virus aviaires. Selon les cas, il s'agit de virus aviaires qui, par mutation, se sont adaptés à l'homme, ou bien de virus qui résultent d'un réassortiment entre un virus humain et un virus aviaire, de telle sorte qu'on a un virus hybride avec les molécules H et N venant du virus aviaire. Donc, par cet procédé, eh bien, le virus est capable, disons, de franchir la barrière d'espèce quand c'est un virus aviaire qui s'adapte directement à l'homme, ou bien donc de faire ce réassortiment qui lui permette d'infecter les gens qui sont pré-immunisés. Alors, comme vous le savez, la crainte actuelle, c'est que le virus, qui est pour l'instant essentiellement un virus aviaire, le virus H5N1, qui est extrêmement virulent chez les oiseaux et qui a déjà fait près de 300 victimes chez l'homme, donc qui a commencé à franchir la barrière d'espèce, eh bien la crainte, c'est qu'il s'adapte totalement à l'homme et provoque une réédition de la grippe espagnole de 1918. Alors, je vais vous dire quelques mots d'une autre épidémie récente, parce qu'en fait, elle illustre l'intervention des deux grands mécanismes que je viens de citer, l'intervention de l'homme et l'adaptation du micro-organisme. En fait, vous vous souvenez qu'il y a eu cette récente épidémie due au virus chikungunya qui a frappé les îles de l'océan Indien au printemps 2005 et en 2006. Eh bien, en fait, cette épidémie dont vous avez tous entendu parler s'est faite en deux étapes. La première étape, comme vous le voyez ici, c'était au printemps 2005, c'était une petite épidémie, vous voyez un agrandissement du nombre de cas dans le cadre en haut. Et puis, quelques mois plus tard, donc à la fin de 2005 et au premier mois de 2006, une épidémie de beaucoup plus grande ampleur est apparue, notamment à La Réunion, où entre 30 et 40% des habitants de cette île ont été atteints par cette maladie. Alors, que s'est-il passé? D'abord, il faut savoir que le virus chikungunya est transmis par un moustique. Et d'habitude, il avait déjà été identifié, par exemple, en Afrique, et il était transmis par un moustique qui s'appelle Aedes aegypti. Or, Aedes aegypti étant très peu présent dans les îles de l'océan Indien, et donc le fait que ce virus puisse se répandre dans la population a paru très étonnant. Sur place, le moustique local, c'est plutôt Aedes albopictus. Eh bien, ce qui a été fait, notamment à l'Institut Pasteur, ça a été d'analyser le virus responsable de la première petite épidémie et le virus responsable de la deuxième très grande épidémie. Eh bien, il est apparu que le virus responsable de la première épidémie était identique au virus qu'on avait déjà trouvé en Afrique. Et donc, selon toute vraisemblance, c'est un voyageur qui venait d'Afrique, qui était infecté, qui a donc apporté le virus avec lui, et on sait que ça devait être aux Comores. Là, ben, il a sans doute été piqué par un moustique et donc il y a eu une petite épidémie résultant de la transmission du virus dans cette île. Mais quand on regarde ce qui se passe dans la deuxième épidémie, on constate que le virus a acquis quelques mutations, mais en particulier une mutation qui lui a permis de s'adapter au moustique local, à Aedes albopictus, qui normalement n'était pas un très bon vecteur. Donc vous voyez qu'on a vraiment les deux processus en jeu ici. L'action de l'homme, c'était en fait le voyage de quelqu'un d'en Afrique aux Comores, et une deuxième étape qui a été l'adaptation du virus au vecteur local et qui a provoqué cette épidémie catastrophique. Donc ces quelques exemples illustrent ce que l'on peut appeler le retour des microbes, avec le retour de maladies infectieuses anciennes, notamment du fait de l'expansion de la résistance aux anti-infectieux et notamment aux antibiotiques, et puis l'apparition de maladies nouvelles, dont une, le sida, est maintenant devenue la plus meurtrière à la surface du globe. Les facteurs qui ont permis cette évolution, et que je viens de rappeler, n'ont aucune raison de disparaître. Et de plus, d'autres facteurs, comme le changement climatique ou le bioterrorisme, sont susceptibles d'aggraver la situation. Donc la guerre contre les microbes est loin d'être gagnée. Est-ce que nous sommes démunis devant eux? Et on en arrive à la deuxième partie de cet exposé. Nous allons parler des nouvelles armes dont nous pouvons disposer contre les microbes. Eh bien, fort heureusement, depuis la fin des années 1970, c'est-à-dire depuis que la menace des maladies infectieuses s'est à nouveau imposée, la science et la technologie ont fait des progrès considérables. Nous sommes maintenant dans l'ère de ce qu'on peut appeler la technobiologie. Et je vous rappelle quelques-unes des étapes très importantes qui ont été franchies au cours de ces, disons, 30 dernières années. Maintenant, on est capable très facilement de séquencer les acides nucléiques, donc de déchiffrer les gènes de non seulement tous les micro-organismes infectieux, mais aussi de leurs hôtes. On est capable beaucoup plus rapidement qu'auparavant de déterminer la structure des protéines à l'angstrom près, par des méthodes comme la diffraction des rayons X. La biologie cellulaire a fait un bond considérable, en particulier du fait du développement de l'imagerie. On peut suivre en quelque sorte le devenir de molécules individuelles à l'intérieur des cellules. L'immunologie a aussi fait un bond considérable. Et vous savez qu'en immunologie, il y a l'étude de ce qu'on appelle l'immunité acquise, qui fait qu'on est immunité contre un micro-organisme donné une fois qu'on a été infecté ou vacciné, mais aussi l'immunité innée, qui est une immunité qui nous protège de façon permanente et de façon non spécifique contre un très grand nombre de micro-organismes. Et pour ce qui est du développement de l'immunité innée, notre président ici a joué un rôle non négligeable. Je vous rappellerai aussi la transgénèse qui permet d'introduire des gènes chez des mammifères et surtout chez la souris, de telle sorte qu'on peut faire de la souris un très bon modèle pour étudier les maladies infectieuses et étudier les moyens de lutter contre elles. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier l'informatique, dont vous savez tous le bon qu'elle a fait, ce qui permet d'une part de pouvoir analyser les données considérables qui proviennent des autres techniques que j'ai, et d'autre part, bien entendu, d'améliorer considérablement les capacités de communication d'un bout à l'autre du globe. Donc, on a beaucoup d'outils dont on ne disposait pas auparavant. Eh bien, ces progrès nous ont en fait déjà permis de mettre rapidement un terme à deux épidémies naissantes qui auraient pu être redoutables, et l'on peut espérer qu'il nous fournira plusieurs nouvelles armes efficaces contre les microbes. Les deux épidémies naissantes auxquelles je fais allusion sont d'une part le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc l'équivalent humain de la maladie de la vache folle, et le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS. L'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine, ou maladie de la vache folle, a résulté de la généralisation d'une pratique datant des années 1830 et consistant à utiliser des farines animales comme supplément alimentaire pour les bovins. Il est probable, et ça c'est une chose qui est assez peu connue, que ce fut l'application à grande échelle de cette pratique pour nourrir les veaux, spécificité britannique, qui fut la cause du démarrage de cette crise à la fin des années 1980. Or, la recherche sur les encéphalopathies spongiformes, même si elle a commencé dès le XVIIIe siècle avec l'identification de la tremblante du mouton, n'est arrivée qu'à la fin des années 1980 à la théorie du prion. Et on ne se rend pas assez compte que ce fut une chance extraordinaire qu'une recherche qui durait depuis deux siècles soit arrivée précisément à une maturité suffisante lorsque les premiers cas humains de maladie Creutzfeldt-Jakob, donc nouveau variant, sont apparus en 1996, ce qui nous a permis de prendre les mesures adéquates, faute desquelles l'épidémie aurait pu prendre des proportions autrement plus dramatiques que celles que nous avons connues. Je vous laisse imaginer ce qui serait passé si la science avait eu 10 ans de retard. On n'aurait absolument pas compris ce qui se passait à l'époque. Dans le cas du SRAS, c'est Internet qui a été au centre de la contre-offensive qui a permis d'écraser dans l'œuf cette pandémie potentielle. On se souvient comment cette pneumopathie grave, dont il s'est rapidement révélé qu'elle était due à un coronavirus, et donc qui a commencé en Asie, et elle a commencé ensuite à se répandre dans le monde entier. Vous voyez ce qu'était la situation le 26 mai 2003. Bien, l'élucidation des modes de contamination, notamment dans l'hôtel métropole de Hong Kong, et dans les hôpitaux où étaient soignés les premiers malades, communiqués immédiatement par Internet aux spécialistes de santé du monde entier, a permis de mettre aussitôt en place les procédures de surveillance et d'isolement des malades et d'interrompre ainsi la chaîne de contamination. Donc vous voyez qu'il y a déjà eu deux grands succès résultant des grands progrès de la science durant ces 30 dernières années. Maintenant, nous allons voir quelles sont quelques-unes des pistes qui sont poursuivies aujourd'hui par les scientifiques pour contrer le retour des agents infectieux. Alors la première, c'est ce qu'on peut appeler une recherche intelligente de nouveaux anti-infectieux. Il ne faut pas oublier que la quasi-totalité des anti-infectieux utilisés actuellement ont été découverts plus ou moins par hasard. Ce fut le cas, par exemple, pour la quinine ou la pénicilline. Et dans tous les cas, la cible de l'agent infectieux, c'est-à-dire la nature de l'activité enzymatique inhibée par cet agent, n'a été identifiée que dans un deuxième temps. Bien, l'espoir, un des espoirs, est maintenant de faire la démarche inverse, c'est-à-dire d'identifier d'abord les cibles possibles, les enzymes possibles comme cibles, puis de déterminer dans un deuxième temps des molécules susceptibles d'agir sur ces cibles. En principe, cela devrait permettre d'élargir beaucoup le spectre des molécules à considérer. Alors on a quand même un exemple d'un succès de cette approche, ça a été le développement des antiprotéases comme agents dirigés contre le VIH. Il y a une protéase codée par le virus qui est essentielle pour son développement. On a établi sa structure tridimensionnelle, donc on a vu quel était le site actif de cette protéine et on a recherché des molécules qui pouvaient se glisser dans ce site actif et empêcher l'enzyme de fonctionner. Et donc l'un des antiprotéases, le saclunavir, a été développé grâce à ceci et c'est donc l'un des agents antivirus du sida utilisés actuellement. Donc on a au moins cet exemple où l'approche a réussi, mais de gros efforts sont faits actuellement pour essayer de généraliser cette approche. Pour donner un exemple, on connaît ici la séquence complète de tous les gènes de Mycobacterium tuberculosis. On peut identifier sur ces gènes ceux qui, dont les enzymes ont des chances de jouer un rôle particulièrement important pour le développement de la bactérie. On peut établir la structure tridimensionnelle d'au moins une partie de ces enzymes et rechercher ensuite des molécules qui vont empêcher ces enzymes de fonctionner. Cela dit, à supposer qu'on trouve de telles molécules, ce qui n'est pas toujours facile, il faut ensuite que les produits qu'on a pu trouver ne soient pas trop toxiques pour l'homme ou l'animal et qu'ils aient une pharmacodynamie correcte. Donc c'est une voie qui est qui est l'objet de beaucoup de travaux, mais dont on ne sait pas encore très bien quel va être son succès. Une autre approche, c'est de trouver de nouvelles approches pour faire des vaccins. Vous savez que les vaccins sont l'arme de choix dans la prévention des maladies infectieuses. Alors, il existe trois grandes catégories de vaccins actuellement. Ce sont soit des microbes atténués, donc qui sont vivants mais qui ne donnent plus la maladie, soit des microbes tués, soit des molécules provenant de ces microbes. Alors les vivants atténués, vous voyez, par exemple, la variole, c'est un cas un peu particulier puisque c'est un virus d'animal qui peut protéger contre l'infection par le virus humain, mais si on prend le virus Sabine contre la poliomyélite, c'est un virus de la poliomyélite atténué, et l'injection de ce virus atténué protège contre l'infection par le virus vivant. La tuberculose, c'est le cas du BCG. Les virus, les microbes tués, il y a un autre vaccin contre la poliomyélite, le vaccin Salk. Ici, c'est un virus tué. Dans le cas des sous-unités, ce sont donc des molécules provenant des organismes infectieux. La diphtérie et le tétanos sont un peu particuliers, ils sont assez anciens. Ce sont en fait des toxines provenant de ces bactéries qui, étant inactivées, peuvent ensuite immuniser contre l'action de ces toxines. Donc on a ces trois grandes catégories de vaccins et dans tous les cas, il s'agit par injection de ces différents produits de faire en quelque sorte un simulacre d'infection de telle sorte qu'on enseigne au système immunitaire à se défendre en cas d'infection véritable. Alors dans la conception de nouveaux vaccins, on fait appel aux nouvelles technologies parce qu'on a besoin de nouveaux vaccins, soit pour améliorer cela, soit pour avoir des vaccins contre des maladies contre lesquels on n'est pas encore arrivé à en obtenir, par exemple le sida, un vaccin efficace contre la tuberculose, un vaccin contre le paludisme, etc. Alors, je vous donne juste une une voie qui est poursuivie, il y en a beaucoup, c'est l'utilisation du génie génétique pour mettre au point les vaccins. Déjà, à la fin des années 1980, la mise au point du vaccin contre l'hépatite B, qui est déjà marqué ici, c'est un travail qui a été fait aussi bien aux États-Unis qu'en France, à l'Institut Pasteur, et avec notre collègue Pierre Thiollet, a fait appel au génie génétique. Dans ce cas-là, on ne pouvait pas cultiver le virus, donc on ne pouvait pas fabriquer du virus atténué, du virus tué ou avoir des sous-unités. Donc l'idée ici a été de prendre un gène du virus, un gène qui fabrique la protéine de surface du virus, à le mettre soit dans une cellule animale, soit dans une levure, et avoir ici un OGM, une cellule OGM ou une levure OGM, qui va fabriquer cette protéine du virus de l'hépatite B. Eh bien, c'est cette protéine ainsi faite par génie génétique est le vaccin actuel contre l'hépatite B. Alors, une autre approche un peu différente a consisté non pas à utiliser un OGM pour fabriquer le vaccin, mais à utiliser l'OGM directement comme vaccin, c'est-à-dire de prendre des gènes d'un micro-organisme infectieux, de les mettre dans un micro-organisme qui ne rend pas malade et de fabriquer ainsi un OGM qui va permettre de vacciner. Et il y a eu un grand succès en l'occurrence qui a été le vaccin contre la rage qui a été utilisé pour vacciner les renards. Et c'est ainsi qu'on est arrivé en introduisant des gènes du virus de la rage dans le virus de la variole à faire un vaccin qui a permis de faire disparaître la rage de la faune sauvage en France. Eh bien, dans la ligne de ce que je viens de vous dire pour ce vaccin contre la rage, il y a des travaux qui sont faits actuellement pour rechercher un vaccin contre le sida. Et je vous cite un travail de l'Institut Pasteur, c'est plus facile pour moi de vous citer des travaux de mon institut que les autres. C'est un travail qui est fait par un groupe dirigé par Frédéric Tanji. Ce qu'il fait, c'est de prendre des gènes du virus du sida et de les mettre dans le génome du virus atténué qui permet de vacciner contre la rougeole. Donc ce vaccin contre la rougeole est très largement utilisé dans le monde entier, est très efficace, n'a pas d'effet secondaire, donc on a confiance en lui. Et là, on va lui rajouter des gènes du virus du sida en espérant que ce virus, en se développant, eh bien, va provoquer une réaction immunitaire non seulement contre le virus de la variole, mais aussi de la rougeole, mais aussi contre le virus du sida. Et quand on injecte un tel virus recombinant, à condition qu'on choisisse le bon gène du virus du sida, on a ces petites particules qui sont en fait des particules vides de virus du sida. Donc l'idée, c'est que l'organisme, voyant ces particules vides, fait une réaction immunitaire contre ces particules, lesquelles devraient pouvoir aussi fonctionner contre le virus entier. Alors, il faut se garder d'un optimisme excessif. Il y a eu beaucoup d'essais de vaccins contre le sida. Aucun n'a marché jusqu'à présent. Donc je ne vous dis pas que c'est ça le vaccin contre le sida. Simplement, c'est une approche nouvelle, en ce sens qu'ici, on a mis les gènes du virus du sida dans un virus qui est capable de se répliquer, qui se multiplie chez la personne vaccinée, ce qui n'a pas été le cas avec les essais antérieurs. Donc voilà un type d'approche pour de nouvelles approches vaccinales. Mais il y a beaucoup d'autres travaux, par exemple sur les adjuvants, qui sont des composés qu'on ajoute aux molécules ou aux organismes faisant l'essentiel du vaccin pour améliorer la réponse immunitaire. Maintenant, quelques mots de l'immunothérapie, qui est quelque chose dont on parle aussi beaucoup. L'immunothérapie recouvre en fait deux types d'interventions. Il y a ce qu'on appelle l'immunothérapie passive, qui est en fait, qu'on peut aussi qualifier de sérothérapie. Elle consiste à injecter à un individu malade des anticorps provenant d'une autre source. Donc on lui donne les anticorps qui éventuellement lui manquent. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé par les pasteuriens en 1894 pour lutter contre la diphtérie. Alors à l'époque, on injectait la toxine à un cheval, on prenait le sérum du cheval et on utilisait ce sérum qui contenait de fait les anticorps contre la toxine pour soigner des enfants malades. Alors ce type d'approche, même si elle a eu un succès, telle qu'elle pose des problèmes parce que l'injection de sérum animal provoque souvent des réactions de type anaphylactique qui peuvent être très graves. Mais il y a malgré tout un renouveau de ce type d'approche parce qu'aujourd'hui on est capable de préparer des anticorps humains dirigée contre un micro-organisme. Et par exemple, quand on réfléchit aux moyens de lutter contre une éventuelle pandémie de grippe aviaire, on pense peut-être aller chercher des personnes qui ont résisté à l'infection par le H5N1 et rechercher des cellules chez eux qui fabriquent des anticorps contre ce virus. Et on peut ensuite trouver un moyen de multiplier ces cellules in vitro et donc de fabriquer en grand des anticorps humains dirigés contre le H5N1. Donc c'est un renouveau, disons, possible de la sérothérapie. Donc ça, c'est l'immunothérapie passive. On injecte des anticorps. L'immunothérapie active, elle, consiste à stimuler le système immunitaire pour qu'il se défende mieux contre des micro-organismes qui peuvent l'avoir infecté. D'ailleurs, contre n'importe quel corps étranger. Alors, ceci, bon, on peut commencer à le faire mieux maintenant parce qu'on connaît beaucoup de choses sur le système immunitaire. Et c'est une approche, d'ailleurs, qu'on essaie de développer non seulement dans la lutte contre les agents infectieux, mais aussi dans le cancer. Et pour illustrer ce genre d'approche, je vais vous montrer 4 diapositives qui m'ont été données par Claude Leclerc de l'Institut Pasteur, qui s'intéresse à essayer d'utiliser l'immunostimulation, l'immunothérapie, pour lutter contre des cellules tumorales. Donc ça part du principe que les cellules tumorales ont à leur surface des molécules qu'elle appelle étiquettes, qui permettraient au système immunitaire de les reconnaître comme étrangères et éventuellement de les détruire. Naturellement, dans la condition normale, quand on a cette tumeur, eh bien, il n'y a pas de réponse immunitaire suffisante, peut-être parce que les étiquettes ne sont pas présentées de façon correcte. Alors, ce qu'il s'agit, c'est d'essayer de prendre ces étiquettes et de faire en sorte qu'elles puissent déclencher une réaction immunitaire contre les cellules qui les portent. Vous avez une molécule qui est cet antigène particulier qu'on trouve dans certains cancers, dans certains adénocarcinomes. Et l'approche a été de fabriquer une molécule assez compliquée, où vous voyez qu'il y a d'abord plusieurs copies de cette molécule étiquette ici, donc il y en a 3 accrochées bout à bout. Elles sont accrochées après un peptide qui est en fait un épitope CD4 universel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très bien reconnu par le système immunitaire, et puis sont accrochées ici par un squelette qui n'a pas de rôle particulier. Eh bien, l'idée, c'est qu'avec cette molécule très particulière, on va essayer de forcer le système immunitaire à reconnaître ces molécules et à détruire les cellules qui porteraient ces molécules à leur surface. Et voilà une des expériences qui a été faite. Ici, on a traité des souris, on a injecté à des souris des cellules cancéreuses. Si on ne fait rien, 30 jours après, toutes les cellules sont mortes du cancer. Mais si on a injecté en même temps cette molécule compliquée que je viens de vous montrer, qui donc incite le système immunitaire à détruire les cellules, on voit qu'on a une survie qui est loin d'être négligeable. Donc voilà ce qu'on entend par immunostimulation, c'est d'essayer de forcer le système immunitaire à se défendre mieux contre un micro-organisme ou une cellule cancéreuse. Maintenant, un autre domaine qui se développe beaucoup, c'est la génétique de la prédisposition aux maladies infectieuses. L'existence de facteurs génétiques dans la prédisposition aux maladies infectieuses est connue depuis longtemps. On connaît en particulier l'exemple de l'anémie falciforme, à cellules falciformes, qui donne une certaine résistance au paludisme. Ça fait très longtemps qu'on connaît ça. Dans ce cas, la résistance résulte d'une mutation dans le gène de l'hémoglobine A. Alors, les cas où une mutation simple confère ainsi une résistance significative à une maladie infectieuse sont encore rares. Mais j'en citerai qu'un seul, parce qu'il a débouché sur la mise au point d'un nouvel antiviral. Au milieu des années 1990, l'étude de sujets demeurait séronégatif en dépit d'une infection très fréquente au VIH pendant plusieurs années, a révélé que leurs cellules T4, chez lesquelles le virus se développe habituellement, étaient dépourvues d'une molécule servant de co-récepteur au virus. Donc vous voyez ici le virus. Le virus s'absorbe à la surface des cellules principalement par la fameuse molécule CD4 qui caractérise les cellules T4. Mais en plus, eh bien, une autre molécule qui a été appelée CCR5 intervient aussi dans l'absorption du virus. On l'a appelé un co-récepteur. Eh bien donc, on a constaté que les gens qui ne pouvaient pas être infectés par le virus, il y en avait auxquels cette molécule manquait. Alors, il se trouve qu'en plus, cette molécule est un récepteur pour des chimiokines. Donc on s'est dit qu'on pourrait peut-être trouver des analogues de ces chimiokines qui vont inhiber cette molécule chez les gens qui l'ont, qui est la majorité de la population, de telle sorte que cette molécule étant inhibée, ça pourrait empêcher la pénétration du virus HIV. Et on savait qu'on pouvait, enfin on pensait qu'on devait pouvoir inhiber cette molécule sans grand dommage, puisque les personnes qui n'avaient pas cette molécule ne paraissaient pas présenter de problèmes particuliers. Eh bien, c'est cette approche qui a été développée et qui a abouti à l'isolement d'une des molécules qui est actuellement introduite dans les protocoles de multithérapie contre le sida, qui s'appelle le maraviroc. Alors, ça n'est pas la molécule miracle contre le sida, mais ça montre quand même qu'on est arrivé par cette voie à trouver un nouveau médicament. Donc, c'est une application de la génétique humaine à la thérapeutique anti-infectieuse. Et disons que plus généralement, on espère que l'élucidation des mécanismes naturels conférant la résistance à une maladie infectieuse ouvriront de nouvelles voies à la thérapeutique. Alors, avant-dernier chapitre, c'est la méthode de lutte contre les insectes vecteurs. Vous savez que de nombreux agents infectieux sont transmis par des arthropodes, que ce soit des insectes ou des acariens. C'est le cas de maladies qui sont connues depuis toujours, comme la peste, le paludisme ou la fièvre jaune. Mais c'est aussi le cas pour des maladies d'émergence plus récentes, comme la maladie de Lyme, dont j'ai parlé tout à l'heure, la maladie du West Nile ou le chikungunya. Et puis lorsqu'on pense aux conséquences du changement climatique sur la prévalence des maladies infectieuses, on pense principalement aux maladies transmises par des vecteurs. Donc une façon de lutter contre ces maladies infectieuses, eh bien, c'est de lutter contre leur transmission par les vecteurs. Depuis la découverte des propriétés insecticides du DDT en 1939, les insecticides chimiques ont permis de faire des miracles, par exemple dans la lutte contre le paludisme. Mais ils ne constituent quand même pas la panacée. D'abord, ils ne sont pas spécifiques, donc ils attaquent aussi des insectes qui ne sont pas vecteurs de maladies. D'autre part, ils ont tendance à perdre de l'efficacité du fait de l'apparition de résistance à ces insecticides chez les insectes. Il y a des incertitudes sur les effets à long terme dans l'environnement, et puis malgré tout, ce sont des composés qui sont toxiques et donc dont on peut se méfier. Donc on a cherché d'autres voies. L'une d'entre elles, qui était utilisée depuis le début des années 1950, c'est qu'au lieu d'utiliser des insecticides chimiques, d'utiliser des insecticides biologiques qui sont des toxines fabriquées par certaines bactéries entomopathogènes qui tuent les insectes, comme ce fameux Bacillus thuringiensis dont on a beaucoup parlé à propos des OGM. Eh bien, cette approche a un certain succès et c'est elle qu'on envisage d'utiliser si on avait une épidémie de chikungunya dans le midi de la France. Mais là encore, on a des problèmes avec ces insecticides parce qu'ils n'ont pas une rémanence suffisante. Et donc, on doit faire de nombreuses applications. Donc, on envisage d'autres approches qui sont plus révolutionnaires et que je cite rapidement. Par exemple, on réfléchit à des vaccins anti-vecteurs qui consistent à immuniser contre des composants du vecteur de telle sorte que celui s'empoisonne lorsqu'il fait un repas sanguin sur une victime vaccinée. Vous vaccinez contre, disons, des composants de l'intestin de l'insecte, de telle sorte que si vous êtes immunisé contre ces composants, quand l'insecte va vous piquer, il va s'empoisonner par les anticorps dirigés contre lui. Et il y a eu déjà des résultats intéressants dans le cas de vaccination contre des tiques qui infectent des bovins. Et puis alors, on peut parler de la lutte génétique qui consiste à diminuer le potentiel de reproduction du vecteur, voire à affecter seulement sa capacité à transmettre un parasite. On a d'ailleurs eu une conférence récemment sur ces variants de l'anophèle qui ont des capacités accrues de détruire le plasmodium. Alors on a des insectes anophèles transgéniques qui ont donc cette faculté accrue de détruire le plasmodium. Et maintenant il faudrait remplacer la population sauvage par ces insectes transgéniques, ce qui n'est pas évident, mais ce n'est pas nécessairement impossible. Cela dit, on n'en est pas encore là et on voit d'ici ce que pourront dire les militants OGM si on lâche des moustiques transgéniques ici ou là. Alors, j'en arrive à ma dernière approche que je veux dire rapidement, c'est ce qu'on peut appeler la veille microbiologique. Un domaine où la guerre contre les microbes a fait un progrès majeur, c'est celui de la surveillance des maladies. Et on a véritablement une Interpol des microbes qui a été mise en place principalement par les organisations mondiales internationales comme l'OMS. Et aujourd'hui, grâce à Internet, et je vous l'ai dit tout à l'heure avec le SRAS, le moindre événement anormal sur le plan de la santé est communiqué immédiatement aux spécialistes du monde entier. Et on peut donc envoyer, si nécessaire, des moyens d'intervention pour intervenir donc en urgence. Donc ça, c'est finalement la veille épidémiologique. Mais quand on parle de veille microbiologique, c'est qu'on veut aller un peu plus loin en tentant de prévenir les émergences sans attendre qu'elles débutent. En fait, il s'agit de surveiller l'environnement microbien de l'homme de façon à prévenir les infections éventuelles. Alors, ça n'est pas du rêve. Nous avons déjà aujourd'hui la surveillance qui est exercée sur la présence des virus grippaux chez les oiseaux. C'est une façon de pouvoir prévoir une émergence éventuelle de pandémie grippale chez l'homme. Ou bien en Afrique, si l'on voit qu'on a une mortalité accrue des grands singes, eh bien on doit penser à l'émergence possible de fièvre hémorragique de type Ebola. Mais je vais vous donner pour terminer un exemple assez parlant de cette surveillance de l'environnement. C'est la surveillance par satellite du degré d'hygrométrie dans des régions où surviennent régulièrement des maladies qui sont dues à des microbes transmis par des vecteurs. Parce que s'il y a une hygrométrie accrue, vous aurez un développement accru des vecteurs et donc un développement accru des maladies dues aux microbes que transportent ces vecteurs. Alors ici, vous voyez que par satellite, on peut surveiller, en fait ce qu'on surveille, ce n'est pas l'hygrométrie, c'est la végétation. Et vous avez une échelle marquée en dessous qui vous montre que selon la couleur, vous avez un accroissement plus ou moins important de la végétation. Et il a été bien démontré que c'était proportionnel au degré d'hygrométrie. Vous voyez ici le changement qui s'est fait entre septembre 2006 et novembre 2006 sur la Corne de l'Afrique avec une augmentation importante de l'hygrométrie, donc en novembre 2006. Eh bien, à quoi ça sert? Voilà ce qui se passe donc pour la maladie due à la fièvre de la vallée du Rift, dont le virus est transmis par les moustiques, justement dans la région que je vous ai montrée. Eh bien, lorsqu'il y a un développement de l'hygrométrie, donc vous avez le développement du moustique, vous voyez, vous avez ce cycle ici où le moustique va pouvoir se développer chez les animaux, et quand l'épidémie chez les animaux devient suffisamment importante, on commence à voir des cas chez l'homme et une épidémie chez l'homme. Eh bien, si on a cette surveillance par satellite, dès qu'on voit une augmentation du degré d'hygrométrie, on va pouvoir mettre en place une vaccination chez l'animal. On va donc diminuer le degré de diffusion du virus chez les animaux et il en résultera une diminution de l'épidémie chez l'homme. Donc voilà un exemple de surveillance de l'environnement pour essayer de prévenir les épidémies. J'ajouterais, parce que vous voyez que là on parle tout le temps de microbes qui viennent de l'animal, en fait je ne l'ai pas dit, mais la plupart des maladies émergentes viennent initialement d'animaux, et il serait important de mieux étudier les microbes qui sont hébergés par les animaux et d'étudier leur capacité éventuelle à infecter l'homme, c'est-à-dire à franchir la barrière d'espèce. Parce que rien n'exclut que des virus qui ont depuis longtemps été présents chez l'animal soient capables un jour de passer à l'homme et de causer des problèmes. Et cela, ça suppose qu'on ait une coordination efficace entre la recherche médicale et la recherche vétérinaire, ce qui est malheureusement très incomplètement réalisé dans notre pays. Alors je conclus. Les phénomènes d'émergence ont été nombreux dans l'histoire. Mais il s'agissait presque toujours de l'apparition dans une partie du monde qui en était indemne de maladies qui étaient endémiques ailleurs. Et ce fut l'exemple par exemple de la peste noire en Europe au XIVe siècle. Ce à quoi nous assistons depuis les années 1970 est différent. Quantitativement d'abord. En effet, selon l'OMS, près d'une maladie émergente est apparue en moyenne chaque année depuis cette époque. Qualitativement ensuite. Car il s'agit souvent de maladies qui n'avaient jamais été identifiées auparavant. Certaines, comme la maladie de Lyme, existaient sans doute depuis un certain temps, mais n'avaient pas été identifiées, mais d'autres, comme la légionellose, étaient probablement tout à fait nouvelles. Les causes de cette explosion de maladies émergentes ou réémergentes, nous l'avons vu, sont multiples. Mais elles sont toutes plus ou moins liées à l'accroissement démographique, avec toutes ses conséquences, dont notamment une agression de plus en plus forte des milieux naturels. Ces causes ne vont pas disparaître et il est donc vraisemblable que le combat contre les maladies infectieuses n'est pas prêt de prendre fin. Heureusement, nous venons de le voir, alors que le grand retour des microbes était en marche, la science a fait de tels progrès que l'espoir d'une contre-attaque victorieuse de l'homme paraît sérieux. Cependant, rien n'est gagné encore et l'exemple du sida est là pour nous le rappeler. Aussi importe-t-il de ne jamais baisser la garde et de soutenir autant que possible les recherches et la formation de spécialistes dans les nombreuses disciplines concernées, y compris dans des disciplines malencontreusement délaissées ces 20 ou 30 dernières années. Merci.
Des microbes et des hommes, c'était le titre de la communication de Maxime Schwartz, correspondant de l'Académie des sciences, biologiste moléculaire, directeur général honoraire de l'Institut Pasteur. Cette communication avait lieu à l'Académie des sciences en octobre 2008, dans le cadre des défis du 21e siècle. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions sur Canal Académie.